Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Marina Rollman qui est humoriste, que vous avez déjà pu voir peut-être sur scène ou que vous avez peut-être pu entendre à la radio sur France Inter puisqu'elle y est chroniqueuse. Ensemble on parle de plein de choses, on commence par parler de Miss France par exemple, de cette fois où elle est montée sur scène pour la première fois, où elle a fait un bide et puis elle a décidé de plus y remonter pendant des années. Il y a un moment où Baptiste Le Caplain entre dans cette interview sans aucune raison. Il y a aussi un moment où Charlie, jeune humoriste de chez Mademoiselle, rentre dans la pièce inopinément. Après, on parle des chiens. Bref, c'est très décousu, mais c'est intéressant. Il y a même un moment où Marina a une épiphanie sur sa vie aussi. Comme quoi, ça sert à ça de parler, quoi. J'espère que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une très bonne note sur votre appli de podcast préférée. Venez mettre un commentaire sur www.histoiredesucces.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est encore le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Marina.
Tu fais une alarme pour que tu relises tes alarmes alors.
J'ai une alarme, c'est marqué tout pour dire attention. Toutes les alarmes. Parce que je te dis, j'ai tout éteint pendant 48 heures, j'étais très heureuse, j'ai vécu in a blissful ignorance.
La vie d'Aloca.
Voilà, exactement. J'ai fait fi de toutes les alarmes et là, très clairement, ça, j'ai pris plein de retard.
T'es en train de te faire attraper par le temps.
Je dois des choses à des gens, je dois faire des trucs dans
Mais t'as vraiment des centaines d'alarmes là dans ton téléphone.
Je suis un peu débile aussi. Ça remplace mon agenda en fait, c'est un peu débile.
Ah, donc ouais. En fait, tu n'as pas d'agenda mais...
Si, j'ai un agenda en plus. Ah. Mais comme souvent, je ne fais pas ce que je dois faire dans mon agenda, je dois rajouter des alarmes. J'ai un problème d'organisation. J'ai très clairement un problème d'organisation.
Tu sais qu'en général, tu as des applis d'agenda qui te font des alarmes.
Non, mais j'ai un problème de priorisation et de... Comment est-ce qu'on dit de, quand tu repousses les choses tout le temps, tu sais,
de procrastination.
Et tout ça se superpose et s'imbrique pour donner une alarme qui dit « Tout !» Il faut tout faire. C'est comme si je mettais dans mon agenda et tout est à faire.
Fais le monde.
Voilà, c'est ça. Fais les choses qu'on avait dit qu'on faisait. Il faut faire moins. Il faut faire l'essentiel. Après, c'est marrant, tu sais, il y a aussi ce truc de filtre où en fait, quand tu laisses traîner un peu, au bout d'un moment, tu sais ce que tu dois faire vraiment.
Oui.
Le privilège ultime, c'est les gens qui notent plus rien, sont en retard tout le temps et tout, mais qui... Bah, en fait, les vrais trucs obligatoires, tu vas les faire.
Ils savent.
Et le reste, ça tombe. Mm. Mais je pense qu'il faut être Madonna pour pouvoir faire ça. Mais...
Tu penses ? Non, Madonna, elle doit avoir vraiment plein de trucs à faire.
Oui, mais je pense
c'est parce qu'il y a plein de gens autour d'elle qui font plein de trucs,
c'est ça. Et qui lui rappellent et tout. Mais qu'à un moment donné, les trucs obligatoires pour toi, à un moment donné, tu vas le faire. Et le reste, bah, soit le monde va te pousser, soit tu vas pas les faire et c'est pas grave. Il y a aussi ça. Hein, tu sais.
Respirer, par exemple. Voilà. Ça, c'est obligatoire.
Ça, on ne met pas. J'ai pas mis d'alarme.
Pas d'alarme pour respirer.
Inspiration, expiration.
On est avec Marina Rollman, salut.
Mais coucou.
On a déjà commencé depuis 3 minutes, tu vois, c'est comme ça.
Ah, c'est comme ça à la fraîche.
Oh là là. C'est très marrant parce que tout à l'heure, il y avait une lectrice de Mademoiselle qui était là, qui mangeait avec nous. Et je disais, bah, il y a Marina Rollman qui vient tout à l'heure. Elle me dit, elle n'a pas été Miss France. Je voulais partager ça avec toi, je me doutais que ça se ferait.
J'ai évidemment été Miss Outre-mer. Non, j'ai été... Putain, j'ai pas été Miss de rien du tout, je crois. Quelle tristesse. Je sais pas si je pense mes parents ou mes grands-parents, ils auraient pu délirer un peu sur un truc quand j'étais petite, genre on l'inscrit à Miss Junior Alpes Vaudoise ou je sais pas trop quoi. Je pense qu'ils auraient pu partir en couille après un truc comme ça. Elle a pas été Miss France. Ce à quoi vous avez répondu oui, évidemment.
J'ai dit bien sûr.
2008.
Voilà. Ouais,
exactement. Elle représentait le Jura. Miss France.
Je pense qu'elle a confondu avec, comment ça s'appelle, Laurie Tillman.
Ouais, c'est un truc en man aussi, c'est ça. C'est ouais. C'est doit être une Alsacienne ou un truc
comme
ça. En man. Ouais, Laurie Tillman. Qu'est-ce que c'est, Laurie Tillman?
Je pense que c'est une ancienne Miss France.
C'est vrai?
C'est ça.
Hein. Ok. Bonjour voilà. Laurie, si tu nous écoutes.
Bonjour Laurie.
Et on pourrait faire un truc comme ça où Laurie, elle va faire un spectacle et moi, moi je vais faire un event Eugène Perma. Et on échange nos vies une journée comme ça. voir ce qui se passe avec Laurie Tillman. C'est fou, ça existe encore, c'est marrant que ça existe encore ces trucs.
Hein. Ah, les Miss France et tout.
Je sais pas si ça baisse en audience ou pas, si les gens qui regardaient sont en train de mourir petit à petit.
Je sais pas, je pense que là je vois au sein de la rédac ça continue à avoir un vrai essor. Il y a ce côté un peu déjà événementiel parce que c'est qu'une fois par an, l'air de rien. Ouais. C'est comme un peu l'Eurovision, tu vois, c'est toujours un peu cliché, ringardos, mais en fait il y a toujours des gens qui suivent ce truc quoi qu'il arrive, même dans les nouvelles générations.
Là comme il est quand même question de l'objectification du corps féminin avec des standards hyper normés et tout, je me demande si ça va tomber. Après, attends.
Les profils des meufs sont de plus en plus balèzes. Hein,
mais ça a été interrogé sur la question des femmes trans, de l'ouverture du concours aux femmes trans, et là je crois que la directrice, qui est elle-même une ancienne ministre, je crois, disait, je crois que j'ai rien contre et tout. Alors après, je crois que le règlement est intentionnellement un peu limitant. Je crois que le règlement, c'est noir sur blanc, genre de sexe féminin. Enfin, tu vois, un truc un peu limitant. Mais qu'elle a dit, non, moi, je crois qu'on va ouvrir aux femmes trans, ce qui est super. Enfin, ce qui est toujours hyper bizarre de demander la permission d'exister à d'autres gens, tu vois, genre, vous allez ouvrir, oh, merci mille fois. Enfin, tu vois, c'est comme le mariage homosexuel où t'as demandé, genre, plein de gens pas homosexuels qui doivent décider, oh, on est humain, merci mille fois. Mais donc peut-être qu'en fait ça va se transformer et que dans 15 ans ce sera effectivement que des neurochirurgiennes qui font ça pour récolter de l'argent pour un truc super,
mais
et il y aura des meufs en situation de handicap et il y aura des... enfin voilà,
je vais donc peut-être dire des conneries, mais je pense que les derniers profils qui sont sortis sont des meufs assez balèzes quoi.
Oui, bien sûr, il y a plein d'étudiantes en médecine, un truc comme ça, mais au-delà de ça, après je veux dire, c'est limitant sur les corps quoi, tu vois. Quand est-ce qu'on aura pas un 36, quand est-ce qu'on aura après peut-être que ça va à son rythme, tu vois, que déjà avoir eu des miss qui étaient pas blanches, enfin tout ça, que peut-être ça va dans la bonne direction.
Ouais, on veut souvent aller trop vite, je pense.
Ouais, après c'est quand même la question bizarre de mettre des femmes en maillot de bain devant des juges où il y a beaucoup d'hommes hétéros et de dire genre toi décide nous qu'est-ce qu'on est bien. Comme ça te plaît, nous bien. Tu vois, il y a quand même un truc de hiérarchie.
Alors, je connais pas tout parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de potasser, mais je pense qu'il y avait un truc aussi de remettre en question le défilé en maillot. Voilà, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Bienvenue dans le cerveau de Marina Rollman.
Merci.
C'est-à-dire que vous partez d'une vanne toute simple et d'un coup d'un seul, on a 5 minutes de digression autour de... Et quid ?
Mais oui, quid ? Qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève de Fontenay ? Est-ce que Jean-Pierre Foucault présente encore ? J'ai l'impression qu'il était lié à ça.
Je pense qu'il est toujours...
Jean-Pierre Foucault vieillit-il ?
Ben, c'est fou. C'est un peu comme Michel Drucker, j'ai l'impression.
Ils ont été incroyables. Ils ont dû utiliser un type de lac en télé
dans les
années 80-90 qui a figé complètement les gens. Et ils sont magnifiques, quoi. C'est incroyable.
Ils sont toujours...
top.
Ouais.
C'est fou.
Ils sont toujours là, surtout. C'est ça qui est fou.
Ouais, concrètement, ils sont très là.
C'est très rare, quand même, d'avoir des trucs où t'es au top aussi longtemps en termes de longévité.
C'est vrai,
quoi.
C'est dingue. Je pense qu'ils ont, à part ça, des vies d'athlètes de dingue. Je pense qu'ils sont hyper ascétiques. Je pense que c'est des mecs qui font vachement gaffe.
Drucker, il fait du vélo, je sais, tu vois, très
mais
très
ouais,
vite, il est à fond.
Donc,
après, Jean-Pierre...
Niveau testiculaire, c'est tragique. Mais en revanche, il est très en forme sur le reste. Nagui, c'est impressionnant. C'est vraiment un asset, quoi.
Tu le connais, Nagui ?
Ouais, je bosse dans son émission. Donc, lui, il fait une émission, une quotidienne sur France Inter de 11h à midi et demi qui s'appelle La Bande Originale. Moi, j'y suis une fois par semaine en tant que chroniqueuse. Il y a plusieurs humoristes qui tournent. Et donc, lui, il a ça... Taratata,
sa boîte de prod,
il a ce jeu télé N'oubliez pas les paroles.
Oh, oui, c'est vrai.
Il fait vraiment, je pense, il travaille 18 heures par jour tranquillou. Et il n'y a pas de secret en fait. Il mange.
Et il a l'émission du midi là aussi.
C'est pas les paroles ? C'est un autre truc ?
Non.
C'est qu'il veut prendre sa place ?
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est un truc de malade. Le mec est partout. Et donc, et en même temps, il a 8 enfants magnifiques, sa femme qu'il aime, des
potes. Il a vraiment 8 enfants ou c'est une blague ?
Non, je crois qu'il en a 4.
Ok, ce qui est déjà
pas. Il a une femme dont je crois qu'il s'aime vraiment fort avec sa femme, ils font plein de trucs cool ensemble, il passe sa vie tous les soirs au théâtre, il va voir des films et machin. Il est extrêmement cultivé. Mais alors lui, ça rigole, il boit du thé, il mange plus ou moins du riz avec des légumes, il fait du sport. Et voilà quoi. J'ai l'impression que ça rigole pas du tout. Il boit un coup de sang et tout. Il est vivant, il est cool, mais il y a un moment donné, il y a pas de secret quoi. Tu peux pas déconner. Enfin, quoi que moi j'aime bien en fait. Je trouve ça hyper romanesque les gens qui. En fait, avant qu'on se rende compte du fait qu'il fallait qu'on prenne soin de notre santé, il y a 40 ans, tu sais, avant qu'on nous dise genre, alors en fait, le martini à midi et fumer des clopes en dessert, c'est pas bien. Et je trouvais hyper beau en fait cette idée que tu pouvais être. Avoir des vies passionnantes et intéressantes et faire plein de choses cool tout en étant justement pas du tout dans un exercice de perfectibilité du corps et tout. Tu as des carrières à la Bukowski ou des trucs comme ça. Je trouve ça hyper beau ces figures-là et moi ça m'emmerde de pas être capable de mener une vie comme ça.
Mais pourquoi ?
En fait j'aime bien l'idée que ton corps ne doivent pas se prêter à des conventions un peu de « désolé, faut que j'aille dormir parce que demain, faut que je sois efficace ». Tu vois, je trouve qu'il y a un truc très Silicon Valley qui m'emmerde un peu, mais je me rends compte, hein, moi je suis comme ça, faut que je sois très saine si je veux avoir une vie cool.
T'as plein de
vitamines dans mon sac, j'ai des alarmes pour me dire de prendre de la spiruline, tu vois, machin. Mais,
t'as une alarme pour prendre...
Non, c'est grave. mais je trouve ça beau les gens qui... où leur corps, enfin, tu vois, ils en font un peu ce qu'ils veulent et ils arrivent à avancer. Mais je crois pas que c'est tellement... Enfin, moi, ça me paraît impossible comme projet. Si tu veux, si j'écoutais tout ce qui me faisait plaisir et que je carburais club, café, je mange une fois de temps en temps un cassoulet et encore quand j'y pense, enfin, tu vois, moi, je meurs au bout d'une semaine, c'est sûr.
T'es sûr de... Bah, tu sais pas, vu que t'as pas testé.
Je l'ai fait, vraiment, j'arrive pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont ça, qui avaient cette légèreté, tu sais, je sais pas si tu regardes les modes de vie de... Je sais pas, je pense une Catherine Deneuve jeune, une Marguerite Duras, enfin tu vois, elle se posait pas les questions. Juste, on tapait la discute le soir tard avec nos amis, puis on fumait du club, puis le lendemain on se réveillait, on prenait un café noir, et puis on, tu vois, on faisait la vie quoi. Et j'y arrive pas. Je trouve ça très beau, mais moi je suis hyper chiante.
Mais est-ce que tu crois pas que de ce fait-là, on oblige, peut-être on met nos corps dans un certain confort entre guillemets en ayant la vie qu'on a aujourd'hui?
Ils sont encore plus sensibles.
Tu crois? Bah, oui.
Ah ouais,
c'est comme oui.
Et moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une fête chez moi, je sais plus, il y a genre un mois. Et mon mec et moi, on a été malades pendant 10 jours après. Je te jure. Moi, j'ai crapoté 5 cigarios pendant cette fête. Mais des tout petits cigarios. Et je les ai crapotés. Et j'ai bu 3 verres d'alcool. Mon mec, il a dû fumer, je sais pas, un demi-paquet de clope alors qu'il fume pas. Et les deux, on a eu genre une angine, on était cloués au lit, on était mal pendant genre 10 jours. Et on s'est dit, mais c'est parce que notre fréquence de base, elle est tellement basse. Que la moindre petite incartade, on est genre cof.
Mais ouais. C'est comme dormir. Tu sais, moi j'ai appris en montant Mademoiselle qu'il fallait que je trique mon sommeil, quoi, tu vois, parce que vraiment j'ai compris que si je dormais 8 heures par nuit, comme ma maman elle m'avait dit toute ma vie, il faut que tu dormes 8 heures par nuit, sinon t'es pas en forme, tu sais, elle m'avait tout le temps dit ça.
C'est vrai.
Bah oui, mais non, parce qu'en fait ça fait 15 ans que je fais ça, regarde, je suis encore.
Et là,
je dors 4-5 heures.
Mais c'est pas vrai.
Mais si.
Non, alors moi ça j'y crois pas, ça je pense que je suis désolée de te le dire Fabien, mais tu vas mourir tôt, c'est sûr.
Bah peut-être.
Non, je suis sûre, le sommeil moi j'y crois pas du tout, je pense que tu te le prends dans la tête.
Tôt ou tard.
Ouais.
Bah j'écoute, je te tiendrai au courant.
Désolée.
Si ça, mais je meurs. Ouais.
T'imagines quand on diffuse le podcast, on commence par un à la mémoire de Fabien Florent, qui dormait vraiment pas assez, ça se voyait.
Il dormait pas assez. C'est pour ça qu'il a perdu tout ça.
Moi le 8h, je pense, je suis complètement... prenant du truc, parce qu'en plus je pense que le 4-5 heures, oui, mais tu te sens pas vachement moins efficace.
Mais ça, en fait, quand j'ai envie de dormir, je dors.
En fait, les heures réelles que tu gagnes, tu les perds en cerveau, tu vois ce que je veux dire?
Bah, je sais pas, mais en fait, en gros, quand je suis fatigué, je dors. C'est-à-dire que je m'empêche jamais de dormir. Je dors à peu près partout, dès que je peux.
Ah, tu dors la journée, tu fais des siestes?
Ouais, c'est ça. Si j'ai envie de dormir, là, je dors, tu vois. Je vais faire
d'accord.
Un quart d'heure, 20 minutes de sieste, c'est trop bien.
Oh,
pas plus,
okay,
hein, parce qu'après, t'as la tête dans le cul.
Oh, ok.
Mais en revanche, ouais, j'écoute quand même un minimum mon corps. Quoi,
mais tu te réveilles naturellement ou tu mets une alarme? Quand tu fais des quarts d'heure, par exemple.
20 minutes, non, je mets une alarme.
Okay.
En fait, ça t'empêche de tomber dans le sommeil profond, ouais. C'est 20 minutes, ouais. C'est tout juste.
Et tu dors 4-5 heures par... Mais attends, mais le réveil doit être violentissime.
Vraiment,
mais tu fais quoi?
Bah, je sais pas, j'ai juste un rythme.
Non, mais ça veut dire que t'es busy jusqu'à 3 heures du mat et tu te lèves à 7 heures?
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu fous jusqu'à 3h du matin?
Oh, plein de choses. Déjà, je profite de la vie parce que, en fait, je travaille en général tard.
Ok.
Et donc, soit, en fait, je fais des trucs du genre monter ces podcasts parce que c'est mon kiff, tu vois.
Ok.
Soit, je regarde des séries parce qu'en fait, ça me fait plaisir et que c'est important pour moi.
Okay.
Ou alors, le soir, je sors dans des trucs. Enfin, tu vois, je vais voir des humoristes géniaux, etc. Et bah, voilà, quoi. En fait, ça anime un peu mes soirées.
Et tu dois vraiment te lever tôt comme ça. Ça me fascine.
Je dois pas, je pourrais dormir un peu plus tard.
Ah.
C'est juste, je me réveille à 7h. Quoi.
Ok. Pff, là, là. Tout ça pour parler de cette histoire de rythme. Moi, je sais pas ce que ça donnera quand j'aurai des gamins. Mais j'ai découvert récemment que 8h, en fait, j'étais beaucoup plus heureuse et tout allait mieux dans ma vie.
Ouais. Mais par exemple, je ne dors plus le week-end. C'est-à-dire que vraiment, quand je peux dormir, bah, le fait de m'être levé très tôt pour mes enfants pendant très très longtemps, maintenant, c'est fini. Tu sais, c'est comme ces vieux là qui.
Ah, moi, je sais pas faire de la grasse matinée.
Toi
ça,
non plus,
c'est sûr. Non, ça, je peux pas faire.
Donc, tu te couches tôt.
Ouais, je kiffe à fond.
Et pourtant, t'as un métier qui t'amène de base à terminer
tard.
Mais
ouais, c'est
quoi,
de la merde. Vous comprenez pas que j'aimerais jouer à 18h. Ouais, un peu plus cette année là parce que je jouais à 21h au Théâtre de l'Œuvre les mardis et mercredis.
Oui, on a même pas parlé encore.
Mais j'aimerais bien me coucher plus tôt. ça viendra, hein. Un jour j'arriverai à faire des spectacles que je joue à 18h, un truc comme ça, tu vois. Non, je sais pas, 19h30.
Il faut aller jouer aux US, non? C'est là-bas, ils jouent à 18h, non?
On vit tôt aux États-Unis, on dîne tôt et tout. Mm. Très agréable. C'est la Suisse en moi, je pense qu'il y a un peu couche tôt comme ça. Je pense qu'il y a de ça.
Bon, l'histoire de ce podcast aussi, c'est de parler de ton histoire à toi.
Ah!
Tu vois, de reparler de ton parcours.
Oui, Jean-Pierre Foucault. Oui.
Bien sûr, Jean-Pierre Foucault.
Voilà, ouais.
Putain, tu m'as dit Jean-Pierre Foucault, je vais arrêter ce podcast tout de suite. J'avais pas cette ref.
T'as la.
De quoi?
Voix de Baptiste Le Caplain quand tu cries.
Ah ouais?
Un truc de dingue.
Ok.
Faudra que tu réécoutes, mais là, j'espère que toutes les auditeurices qui sont vont envoyer des mails et des colis.
Des colis.
Pour confirmer. Mais je te jure, c'est incroyable. En fait, quand tu fais une voix, quand tu rigoles et quand tu cries, il y a un truc Baptiste Le Caplain comme ça.
Baptiste Le Caplain.
Mais oui, oh putain, c'est dingue, incroyable. Donc oui, mon parcours. Pose-moi des questions, je vais y répondre.
Et en fait, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Marina quand elle avait 7 ans. 7-8 ans.
À quoi ressemblait Marina quand elle avait 7-8 ans? Alors, j'étais à l'école primaire en Suisse. 6-7. Donc, je pense que j'étais en deuxième ou en troisième primaire. Parce qu'en fait, nous, on a fait ce truc complètement fou en Suisse où, à partir de 5 ans, quand tu rentres à l'école primaire, on a simplement numéroté les classes dans l'ordre. Voilà. Wow. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de proposer à la France. C'est au lieu de nous faire des merdes d'abréviation de mon cul de CP2, moins 8-12, après on numérote à l'envers, et ça va jusqu'à 1, et après il y en a encore une après qui s'appelle terminal, on sait pas pourquoi et tout. Vous pourriez faire de 1 à 12, genre tranquillou. Mais bref. Donc, à quoi je ressemblais? Alors, j'étais enfant unique. Je sais pas si c'est la période où ma mère, elle était. Ma mère, ouais, je crois vers 7-8 ans. Ma mère, elle était en école de théâtre à Paris.
Okay.
Pendant une année, elle faisait des cours Florent, puis moi j'habitais avec mon père à Genève. Et elle rentrait les week-ends. Et donc j'étais très sage, je dessinais beaucoup, j'avais plein de potes. Je faisais pas de sport, ça a toujours été une aversion. Non, je faisais de la danse classique.
Crossfit.
Je faisais de la danse classique, mais sinon j'étais pas très sportive.
Bah, c'est du sport la danse classique.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la gym et tout, ça me foutait un peu les jetons. Okay. Les jeux très physiques, les trucs où il faut taper dans des ballons et tout, je savais pas trop faire. Et je pense que j'étais déjà rigolote. Et je dessinais plus qu'aujourd'hui. Et voilà, ça
allait
bien.
Ça te manque un peu, dessiner ?
Ouais, un peu, ouais. J'aime bien faire des trucs avec les mains, je fais pas assez. Mais quand j'ai le temps, je fais un peu en vacances, je fais des aquarelles moches et je tricote, trucs comme ça. Mais c'est important, je pense qu'on fait pas assez avec nos mains. Enfin, en fait, c'est pas pour rien que ça nous fait tellement de bien quand on est petit, et c'est bizarre qu'on arrête brutalement, je trouve.
J'ai interviewé un mec hier pour parler de paternité. Et en fait, il me disait qu'il y avait un test, je sais pas si tu connais ça, je vais t'en parler, un test pour mesurer entre guillemets ta créativité, tu vois.
Okay.
Ils te filent un trombone, et ils te disent, ok, trouve-moi toutes les applications que tu peux faire avec ce trombone.
Ah, génial.
Tu vois. Et apparemment, tu peux réussir à... tu réussis le test, entre guillemets, quand tu trouves 200 applications avec un trombone. Tu
What?
Vois. Donc, bah ouais, il y a plein de trucs à faire avec un trombone, en vrai, si tu réfléchis bien. Et... apparemment, il y a 90% des enfants qui réussissent ce test.
Ah, génial.
50% à 10 ans et après plus que 15% quand on devient adulte.
Waouh.
On perd tout ça.
Putain, Baptiste Le Caplain. On gagne Baptiste Le Caplain. On perd de la créativité, mais on gagne Baptiste Le Caplain. C'est vrai qu'on perd tout ça parce que on a un mode de... C'est normal, hein, mais on a un mode de fonctionnement utilitariste.
Ah.
On sait pourquoi on doit utiliser nos journées, on se spécialise dans nos activités, on a moins le temps de rêvasser et de regarder le plafond, quoi. On sait pourquoi on doit aller remplir cette facture pour ensuite aller payer ce truc, pour ensuite aller faire réparer l'évier, pour ensuite ta. On fait des boulots spécialisés. En fait, c'est ça qui est hyper marrant quand t'es petit, c'est que t'es un peu CEO d'une entreprise qui ne sert à rien du tout. Non, mais c'est vrai, t'es hyper créatif et à la fois tu peins. Si on appliquait. C'est un peu Elon Musk, les enfants, on est tous une espèce de mégalo fou. Il a, oui, je suis un peu peintre, mais je suis également cycliste. Et il m'arrive de me spécialiser dans les dinosaures. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... Si tu l'appliques à une vie d'adulte, c'est une structure d'entreprise indéfendable, quoi. Et donc, après, voilà, après, on spécialise. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir être un peu touche-à-tout et débilos. Mais est-ce que re-avoir des enfants, ça te remet pas un peu dans ce truc marrant qui est genre, on va faire du papier crépon, mais ça, également aller chanter.
Ça te donne des excuses pour le faire.
C'est chambé, c'est trop bien.
Tu vois. Pas pour tout.
Ouais.
Tu disais que t'étais un peu rigolote quand t'avais 7-8 ans. T'étais rigolote comment ça se...
Je crois que je faisais rire mes copains. Et Et je pense que ma conscience politique n'était pas encore hyper éveillée, donc je pense que j'avais pas trop de complexe à faire des accents qui aujourd'hui me feraient probablement frémir un peu. Non, mais je crois que c'était principalement des accents suisses, donc ça va. Ah. Mais je sais que je faisais un peu rigoler les adultes en faisant des petits pestacles, quoi.
C'était la faute à Michel Leeb.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je crois que je faisais un peu rire, j'inventais des histoires. J'étais enfant unique, enfin, j'ai jamais été enfant unique, mais j'ai toujours un peu vécu sans frères et sœurs à la maison. Et donc, je faisais assez facilement des spectacles pour les adultes, des petits trucs de danse, de théâtre, de machin. Bon, comme beaucoup, hein, de gamins.
Mmh. Toi, tu l'as jamais perdu.
Voilà. Si, en fait, oui. Ça s'est mis en veilleuse à un moment.
Tu peux m'expliquer ça.
Ouais, parce qu'en fait, je pense que, je sais pas quand t'arrêtes de faire de le clown pour tes parents, peut-être 10-12 ans. Et après, moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Je voulais faire du dessin, je voulais que ce soit ça mon métier.
Ah ouais?
Je voulais dessiner des dames.
Okay.
Et on m'a dit, bah, tu pourrais par exemple dessiner des habits, c'est un bon moyen de dessiner des dames. Je dis ok. Du coup, je suis devenue obsédée par ça, ouais. De genre 12 à 18 ans. Je passais ma vie dans les fringues, je passais ma vie à les fripes, à retailler des fringues, à bosser dans des magasins d'habits, à faire des retouches pour me payer des fringues que je voulais dans ces magasins-là. Enfin, j'étais vraiment genre obsédée par la mode. Et c'est complètement tombé vers 18 ans.
Mais à cause ou...
Je pense
à quoi
que... déjà, je pense que la puberté et donc le changement de forme de mon corps, ça m'a mis un coup sur la maîtrise de mon image. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la puberté, c'était aisé. Tu sais, t'es un petit cintre, en fait. Moi, j'étais une gamine comme beaucoup d'enfants. Tu sais, pas beaucoup de masse graisseuse. T'es un peu des sticks, quoi. Mmh. T'es un bonhomme bâton. Et donc, les vêtements tombent bien sur toi quand t'es un bonhomme... Enfin, tombent bien. La manière dont on a créé la mode aujourd'hui et l'image du corps de la femme, etc., etc., fait que on a aujourd'hui taillé beaucoup d'habits pour des bonhommes bâtons. Le problème, c'est que 95% des femmes ne sont pas des bonhommes bâtons. Les hommes aussi, d'ailleurs. Et que maintenant, ça redevient un truc complètement fou de genre, oulala, on va prendre les gens en surpoids. Non, en fait, c'est. À l'heure actuelle, on fait de la mode pour 3% de la population, c'est pas normal, quoi, mais bref. C'est pas les gens en surpoids, c'est genre. C'est bizarre de prendre que les bonhommes bâtons pour faire les pubs, mais bref. Donc je pense que moi, la puberté, ça m'a mis un coup sur le fait que mon corps était moins utilisable comme une espèce de mannequin hyper neutre pour la mode qui était faite à l'époque. Je pense qu'après, je suis devenue un peu triste pour diverses raisons et que du coup, ma créativité, elle s'est un peu mise en berne. Je pense qu'aussi, il y a une question de politisation du corps féminin en grandissant, où tout à coup, je me suis rendu compte, genre, merde, en fait, ce qui m'amusait beaucoup jusque-là, sur le jeu, sur la séduction, la performance de la féminité. Tout à coup, je me retenais. Tout à coup, je me disais, attends, est-ce que ça me plaît de me fringuer comme ça? Parce qu'on m'a tellement engrainé et mis des idées dans la tête que je veux être cette image qu'on m'a dit qui était séduisante, mais en fait qui est limitante. Et je mets des talons, mais c'est pas confortable. Mais je l'aime bien. Ou est-ce que vraiment ça m'amuse? Ou est-ce que machin? Et donc en fait, je suis passée de la mode, c'est ma vie, et j'avais un attrait énorme pour tout ça et j'avais un respect pour ce métier-là et tout, à un truc tout à coup bête, je pense un peu d'ailleurs de misogynie intégrée, qui était ah en fait ça c'est vain, tu vois, c'est,
ah, oui.
c'est des questions, c'est des chiffons, enfin tu vois, c'est pas intéressant, et aussi moi un rapport à mon corps bizarre qui fait que je suis allée vers l'extrême inverse. Tout à coup, pendant longtemps, j'ai voulu la silhouette la plus neutre du monde, hyper androgyne, je me suis rasée la tête, tu vois, j'avais envie de m'habiller entre guillemets comme un mec, enfin j'avais pas du tout envie d'exister esthétiquement parce que j'avais pas envie de jouer d'une séduction selon les codes de la féminité et tout. Et donc, je pense que ça m'a coupé un peu de ça. Et donc après, j'ai un peu erré. Je me suis demandé si j'allais aller en école d'art et tout. Je finis en architecture. Mais tout ça pour dire, en fait, donc de 12 à 25 ans, la question de la performance se pose vachement moins. Parce qu'en fait, elle s'était peut-être un peu transformée avec la performance du vêtement. Et peut-être quand ça, à 18, elle tombe un peu. Là, c'est pour le coup, la performance, elle tombe complètement. C'est-à-dire qu'au début, tu avais le jeu d'enfant, les clowneries de gamins. Puis la mise en scène par le vêtement, c'est intéressant, on se déguise, on prend les appareils qui sont pas les siens et tout, on fait des références à des époques, des personnages et tout. Et quand ça tombe, je crois que j'ai une espèce de période de creux, peut-être moins en fait, peut-être de 17, 18 à 25, où en fait je performe plus trop. Et je pense d'ailleurs que j'ai pas trop de manière de canaliser ma créativité. Mmh. Et je pense que ça, je réalise ça en t'en parlant, je pense que ça a été une source de déprime assez dingue.
Ouais.
Et je pense qu'en fait, il me semble que c'est Kian Kojandi qui en parlait dans Pulsion, que c'est la perte du jeu. J'ai l'impression que lui, il reliait un peu les questions de dépression avec la perte du jeu chez les enfants et aussi de l'activité physique. Lui, ouais. il disait vachement qu'il y avait un rapport aux endorphines où il disait, ouais. en fait, jusqu'à 14 ans, tu cours comme un barge tous les jours, comme un chien, tu sais, pendant 4 heures par jour, t'es le truc. Et tout à coup, t'arrêtes subitement et tu comprends pas pourquoi.
Le regard de l'autre.
Voilà,
le regard
de l'autre. Ouais. Je suis tout malheureux, je vais fumer des joints, je vais écouter The Cure et tout. Et en fait, c'est ça. Ben, moi, je pense que voilà, à partir du moment où il n'y a plus. Mais c'est incroyable, c'est une psychanalyse, Fab, c'est fou. Qu'on en parle maintenant.
J'ai pas bossé des masses de. J'ai pas posé des
masses ouais, mais c'est ça le but de la psychanalyse, tu vois. C'est que. Non, mais je crois que vraiment, il y a eu une période de ma vie où il n'y avait pas de créativité et que ça a été un gros problème de. Du coup, j'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais. Putain, c'est dingue qu'on en parle comme ça. Je te jure, c'est fou. Je vais sortir de cet après-midi complètement différente. donc voilà. Donc après, j'ai plus trop performé. Et puis quand j'ai réessayé, ça s'est pas passé bien tout de suite parce que ça se passe jamais bien. Mm. J'ai fait un concours d'humour à 20 ans. Qui était en fait la première fois que je montais sur scène. Je fais un peu de théâtre quand j'étais petite, mais tu vois. Et ça s'est très mal passé, comme se passe beaucoup de premières fois. Sauf que moi, comme je m'attendais à ce que ça se passe bien, j'ai fait genre, quoi ? Bon, eh bien, je ne monterai plus jamais sur scène. Et j'ai fait une méga pause, j'étais méga vexée. Et le problème, c'est que c'était filmé. Ah. Donc, c'est devenu les 6 premières pages de résultats Google quand tu tapais mon nom pour les 5 années qui ont suivi. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait une pause et je me suis remise à performer à nouveau il y a 6-7 ans.
Ah, tu vas trop vite.
Ah, pardon, en fait, pardon.
Non, mais
vas-y,
c'est
vas-y.
Cette pause qui est intéressante. C'est-à-dire que ouais. je pense que t'étais pas juste dans une posture de quoi, même si j'imagine bien, je t'imagine très très bien faire ça.
C'est hyper heurtant. Hein.
Voilà.
Non, mais c'est dans le sens, c'est. Tu te dis, j'y arriverai jamais.
Parce que c'était vraiment ton. En fait, j'ai du mal à faire le lien entre. La mode, à fond la caisse et tout, et d'un coup d'un seul, tu décides de monter sur scène pour venir faire des blagues. Alors, j'imagine.
Alors en fait, ouais, il y a quelques années qui se passent. En gros, vers 17-18 ans, quand j'ai l'équivalent de mon bac en Suisse, je m'apprêtais à aller dans une école pour faire de la mode, et au final, on se rend compte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Charlie.
Bonjour Charlie. Ça va, tu vas bien? Je t'embrasse pas, je suis malade.
Ah, vous connaissez, oui. Maintenant, vous êtes tous dans
le milieu. Elle fait des blagues et tout.
En fait, j'ai décidé de faire une chanson de Jacques Brel, Madeleine. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, je vais enregistrer dehors, parce que c'est plus marrant.
Mais il n'y a pas de connecteur à ce que tu dis, Charlie, ça n'a aucun... Non,
Charlie.
Mais attends, c'est incroyable. Mais Charlie, mais non, parce que je l'ai vu sur scène, ça avait beaucoup plus de sens.
Ah non, mais
là, c'est incroyable.
Bah, c'est Charlie dans tous les jours.
On dirait Jean-Paul Rouve. Bah, j'ai décidé de faire Jacques Brel. Alors voilà.
Ah, Jean-Paul Rouve dans les déchets.
Radio Bière Foot.
Radio Bière Foot. Radio de la bière, du foot.
À la télé. J'ai décidé de faire Jacques Brel et il n'y a pas de pile.
Il n'y a pas de pile. Alors, je dois y chercher des piles.
Incroyable. Mais merci, tout va bien. Salut Charlie, à très vite. Bon Jacques Brel.
Merci.
Dans la rue. Mais ça va donner quoi? Parce qu'elle fait des vidéos, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, Charlie,
après,
elle fait des vidéos.
Elle vous poste,
enfin, Charlie, elle fait plein de vidéos. T'as jamais vu les vidéos de Charlie?
Non. Mais c'est sur le site de Mademoiselle?
Ouais.
Où elle va chanter
elle
du Jacques Brel dans la rue?
Ouais.
C'est génial.
Elle a fait ça, elle a refait tout le sketch du. Bah, tu parlais des déchiens. Tu parlais des Robin des Bois, mais elle a aussi fait les déchiens, le bonnet, le sketch du bonnet.
Ah ouais.
Elle a refait le sketch du bonnet.
Tout
tu te souviens de ce sketch du bonnet où en fait t'as François Morel et je sais plus qui entre c'est Saladin, c'est ça, non,
ouais,
c'est
ouais.
Saladin qui lui parle énormément et tout, et en fait il a le bonnet donc il n'entend pas quand il parle,
oui.
Et dès qu'il remonte, en fait, on l'entend. Il a refait ça avec son pote, enfin, c'est Charlie, quoi. Tu vois, c'est voilà.
Je crois que mon préféré des déchets, c'est un truc qui nous a fait beaucoup rire avec une amie il y a genre 15 ans quand on était au lycée, c'est Yolande Moreau et François Morel qui sont là posés, et tout à coup il y a le petit, c'est Saladin je crois, qui revient avec son sac à dos.
Le petit, c'est pas Saladin, je pense, c'est un autre.
Celui qui joue leur gosse.
Celui qui joue leur gosse.
Celui qui joue leur gosse, et il revient. Et les deux sont là. Bah, t'es là? Bah, oui. Mais t'étais où? Bah, j'étais à l'école. Mais, oh non, on a cru que t'étais mort. Et c'est 5 minutes des parents qui. Ils sont pas outrés, ils sont pas peinés, c'est juste genre, bah, non, on pensait que t'étais mort. Tu sais, ils sont limite en train de dire, genre, bah, on avait loué ta chambre, on pensait que t'étais mort. Puis, bah, non, j'étais à l'école. C'est hyper bien. Ah, bah, non, on pensait que t'étais mort.
C'est dit, je viens du Nord, et c'est, si tu veux, c'est limite. C'est une semi-blague, tu vois. Dans le...
On pensait que t'étais mort. Bah non, mais t'es à l'école.
Et Marguerite Yourcenar, elle a gagné le Tour de France, Marguerite Yourcenar. C'est Marguerite Bourgeois-Senard, c'est pas Poulidor. Là, tu fais Poulidor, il a jamais gagné le Tour de France. Et, quoi?
Ah, la papa mobile. Bon, il y a trop de choses. Bah, il y a une voiture, toi. Non, pas de papa mobile. Ah, c'est trop drôle.
Si vous connaissez pas les déchiens, que vous êtes trop jeune pour avoir connu les déchiens, franchement, allez chercher sur Internet.
Incroyable.
Louer des DVD, faites quelque chose. Enfin,
Est-ce qu'il y a une violence de classe dans les déchiens? Est-ce qu'on se moque de gens qu'on n'est pas? Ou pas? Non, c'est fait avec tendresse.
C'est fait avec beaucoup de tendresse, ouais. Mais est-ce que moi, tu vois, les connais un peu.
Que mes grands-parents ne parlent pas comme ça, tu vois? Est-ce que moi, il y a un truc voyeuriste et tout ou pas? Je sais pas.
Bah, en fait, je pense que. Ah, tu es toujours dans ce truc de est-ce que moi, en tant que non concerné, j'ai le droit de parler ou pas? Mais pour moi, en fait, c'est pas forcément.
Pas de parler, ah, mais pas, tu vois, est-ce que qui fait ça? Non, mais est-ce que moi qui fais ça, est-ce qu'en regardant ça, j'ai juste un truc un peu, tu vois, de tourisme de classe un peu violent, de genre oh là là, ils sont drôles, ces gens qui articulent pas bien.
Ah, toi, en le regardant ou en le faisant?
Non, en le regardant.
Ah oui.
En regardant,
bah écoute, moi je le lis avec mon gars qui a grandi dans le Nord, si tu veux, et qui en a connu des gens comme ça, quoi, tu vois. Donc beaucoup de tendresse. Je sais pas si toi, c'est beaucoup de tendresse, mais au moins il y a un côté un peu.
Non, mais je crois.
Moi, je pense que quoi qu'il arrive, les déchiens, ça marche bien et ça fait rire, quoi. Et je pense qu'ils se moquent pas d'eux, en fait. Il y a beaucoup de. Enfin, tu vois, ils ne se moquent pas de ces gens, en fait.
C'est de la tendresse.
Beaucoup de tendresse pour ces persos, quoi.
On parlait pas du tout de ça. On parlait de
comment t'as fait pour passer
à 18 ans,
la mode à la scène.
En gros, voilà. Alors, la mode, ça m'intéresse jusqu'à ce que j'ai des hanches qui poussent et que j'ai des boutons et que je me dis, genre, j'arrive plus à me donner la tête que je veux. Enfin, tu vois, je suis plus cette petite poupée Barbie que j'habille comme ça. Donc je me cherche un peu créativement, je fais une année sabbatique, patin coup fin, je pars en architecture, après je fais des lettres classiques, enfin je fais une espèce de bordel d'orientation, je commence à faire très peur à mes parents. Et à côté de ça, concomitant, j'arrête d'être créative et je pense que c'est vraiment, c'est ce que j'ai découvert à travers ce podcast aujourd'hui. Merci Fab Florent.
De rien.
C'est que ça me rend triste. Et donc, à un moment donné, dans ces orientations un peu perdues, j'ai un pote qui me montre un spectacle de Jerry Seinfeld. Qui s'appelle I'm Telling You for the Last Time, qui est une des rares captations qui existe du travail de Seinfeld, en fait, parce qu'il y a des petits bouts de sketch par-ci par-là, mais il y a peu de spectacles anti-captés, qui est un spectacle qui est disponible sur Netflix. Et je vois ce truc-là. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que l'écriture, de manière créative, ça m'intéresse. Que je suis drôle dans la vie, qu'en fait j'écris déjà des choses drôles sans le vouloir, mais ça va d'email à des amis, à SMS, mais que c'est un peu plus que juste un petit email drôle, c'est une performance que j'aime bien, tu vois, je prends le temps d'écrire des pavés parce que voilà, mais je fais pas le lien tout de suite avec un métier éventuel et tout. Et en voyant Seinfeld, je me dis ah en fait putain, lui ce qu'il fait sur scène, je comprends comment on y arrive. Jusque là mon contact avec l'humour sur scène, c'était par exemple Laurence Foresti ou Eli Kaku, qui sont des gens qui me font rire énormément. Mais je ne voyais pas le pont.
Ils sont plus dans la performance d'un personnage, etc.
Ça, en fait, ils te donnent l'illusion, parce qu'ils font ça très bien, c'est comme les patineurs artistiques, mais ils te donnent l'illusion qu'ils arrivent sur scène et qu'ils font ce truc tout en naturel. Et je ne vois pas le pont qu'il y a entre moi, Marina Rollman, 20 ans, perdue dans ses études, je ne sais pas ce que je fais de ma vie, et eux. Je ne vois pas comment on arrive jusque-là. Maintenant, je commence à comprendre, mais... En revanche, Seinfeld, je comprends un peu plus les ficelles. Tout à coup, je le vois, alors qu'il me donne un produit abouti, mais parce que c'est des déductions, c'est des raisonnements de pensée. Tu vois, c'est un truc assez analytique sur un sujet. Tu vois, il prend un sujet, il te le démonte. Tu vois, il est pas conteur, c'est pas du storytelling. C'est pas machin. Comme là, je comprends qu'en fait, c'est un peu comme une dissertation drôle, je schématise, mais voilà. Là, je peux faire ça. Et donc, je commence à m'y intéresser. Et je tombe sur un concours qui est organisé par France 4 à l'époque, le Montre Comedy Festival.
Oui.
Et probablement une marque de bagnole, genre, je sais pas, Daihatsu. Je sais pas si c'est une marque de bagnole. Bref. Les RAV 4. C'est quoi ces 4? C'est Suzuki.
Ce podcast est sponsorisé par Daihatsu.
Daihatsu. On a inventé cette marque. Je viens d'inventer cette marque.
Je pense pas que ça existe.
J'aimerais que Sophie Marie Laroui nous dise si j'ai inventé cette marque.
Tu décides de te lancer.
Ouais, je me dis ah bah c'est peut-être mon métier qui est en train de se dessiner, parce que je suis perdue en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est qu'en fait je perds ma voix créative, je sais pas ce que je veux faire, et c'est par hasard que je tombe sur Seinfeld, je me dis ce sera peut-être ça, et je fais ce concours et chiasse absolue parce que première fois que tu montes sur scène, pas possible quoi, sauf que c'est filmé et donc non seulement je me prends une patate de honte, mais en plus je me dis ah en fait j'ai cru en voyant Seinfeld que peut-être je pourrais y arriver. Mais j'ai bien vu là par l'épreuve du feu que je n'y arriverai jamais. Et j'ai pas compris, genre, ah non, c'est juste que c'était ta première fois sur scène et que t'as vu un professionnel le faire et qu'il y a probablement quelques étapes entre deux. Je me suis juste dit genre bah non, c'était trop horrible quoi, j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un volcan et donc il faut pas refaire. Et je fais la pause pendant 5 ans et après je me rends. Mais donc ce qui a porté l'un à l'autre, c'est un bout d'errance et ensuite vraiment un concours de circonstances. C'est si je pense que si j'avais pas vu Seinfeld, j'aurais mis vachement de temps avant de me dire ah mais t'es drôle dans la vie et t'aimes bien écrire, pourquoi tu mets pas les deux ensemble, tu vois.
Et t'as pas sur le moment ce truc justement de bah peut-être en fait que si tu le refais. Enfin, t'avais pas déjà eu cette expérience-là, toi, en tant que plus jeune, tu vois, par exemple, de « Ok, en fait, je vais faire un truc que j'aime bien, je rate, je vais faire en sorte de le refaire pour m'améliorer, et puis en fait, je vais re-rater. » Parce qu'en fait, c'était dur pour toi de monter sur scène, c'est ça, à ce moment-là ?
Ouais, et je crois qu'on est peu près, cognitivement et physiquement, à ce que c'est se planter sur scène. C'est un truc très bizarre. Tu vois, de dire genre « J'ai essayé de dessiner un arbre, bon, il est pas super. » Je vais refaire un arbre. C'est entre toi et toi, c'est toi le juge. Là, c'est devant des gens. C'est comme si la première fois que tu faisais de la gym artistique, tu le faisais en concours devant des juges olympiques. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est ça qui est terrible avec la scène, c'est que tu l'apprends devant les autres, tu l'apprends en le faisant, quoi. Donc, je pense que j'avais un peu l'expérience. Après, non, je ne suis pas quelqu'un de très compétitif. C'était facile à l'école pour moi. Je n'ai jamais beaucoup travaillé de manière générale, donc je pense que j'ai peu appris les valeurs de la persévérance, du travail, du zèle, de l'acharnement, l'humilité qui va avec. Ça, encore maintenant, je ne connais pas bien et c'est un vrai problème dans ma vie, je pense. non, c'est vrai, je le dis. Du coup, je pense que je serais hyper, vachement plus cassante avec mes enfants que mes parents l'ont été avec moi, parce que tout le monde était très gentil, mais ce n'est pas forcément le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants d'être tout en amour et en « Oh, bravo, tu as mis un pied devant l'autre, félicitations, tu es tellement extraordinaire. » Et toi, tu finis par y croire et à 18 ans, quand le réel te rattrape, tu es là genre « Quoi ? Comment ça ? Je dois faire des efforts. » je pense que j'ai un peu trop cruisé avec facilité jusque-là.
C'est marrant, je fais une petite pause, mais en fait, c'est une discussion qu'on a en ce moment. Je partage ma vie hein. Et aussi avec les gens qui écoutent ce truc. Mais c'est une discussion qu'on a en ce moment avec ma femme à propos de l'éducation de nos enfants.
Ouais,
c'est
que. Il faut les taper.
Non, pas...
non, mais doucement, mais il faut les taper.
Mais en fait, il faut les foutre dans des situations où elles vont pas être bien, en fait. C'est un vrai truc avec amour, tu vois. Et en même temps, par exemple.
Non mais elles vont être vachement mieux que les gens qui se le prennent jamais. C'est-à-dire rater et dédramatiser le ratage, et dédramatiser la lose, c'est un bien meilleur cadeau que de mettre en place les conditions de ne jamais rater. Mais le jour où tu rates, mais c'est une blessure. C'est même pas une blessure d'ego, c'est que tu penses vraiment que tu vaux pas la peine d'être sur terre et que les gens te détestent.
Ma deuxième enfant par exemple fait du piano. Elle avait pas taffé de la semaine, tu vois, et donc elle voulait pas aller à son cours.
Ah non.
Et ma femme lui a dit OK, pas de problème, tu vas pas au cours.
Non.
Mais si. Et moi je lui ai dit mais non, en fait, faut qu'elle y aille, faut qu'elle se prête, parce que moi aussi quand j'étais môme, je faisais du piano, et quand j'avais pas taffé, en fait, ma prof, elle le voyait minute 2 si tu veux, et elle disait t'as pas taffé? J'étais là si. Non, c'est sûr, t'as pas travaillé. Oui, c'est vrai, j'ai pas travaillé. En fait, elle m'humiliait un petit peu, et en fait, c'était pas si grave que ça, et je repartais en disant oh putain, la prochaine fois, je reviendrai en ayant taffé. Et donc voilà, ça me permet. C'est un vrai truc, mais c'est dur à faire. Hein, tu vois,
ça doit être horrible. Mais moi, vraiment, on m'a fait commencer plein de sports.
Ouais.
J'ai tout arrêté. Le piano aussi. Enfin, mes parents, je sais pas s'ils essayaient de rattraper d'autres trucs qui étaient un peu plus compliqués dans ma vie en étant hyper lax sur d'autres choses. Et je pense qu'ils étaient aussi juste jeunes. Ils bossaient beaucoup. Ils roulaient pas sur l'or. Enfin, je pense que c'était tout un truc où à un moment donné, tu dis on va juste essayer de. Comment dire, limer le plus possible les soucis et de pas se rajouter de la mouise à la maison. Mais je pense que non, on se rend pas service quoi.
Donc là, tu te plantes.
Là, je me plante et c'est douloureux. Mais en fait, là, le truc, c'est que je me plante, c'est je crois que ce qui m'empêche de remonter sur scène, c'est pas que je me dis oh là là, il y a du boulot. C'est que là, je me dis genre. Ah, j'imagine qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non. J'avais pas du tout anticipé le niveau de violence que ça pouvait être. Et là, je vois plus. Autant, tu vois, entre moi et mon cerveau et Jerry Seinfeld, je comprenais un peu le pont qui était possible. Autant, la sensation sur scène est tellement chelou les premières fois. Et un plantage, selon comment il est, peut être tellement violent. Que là, en revanche, je n'entrevois plus qu'est-ce que je peux bien pouvoir poser comme jalon pour aller de l'un à l'autre. Là, je me dis vraiment genre, ah, en fait, il y a probablement. Parce qu'on met beaucoup en avant le mythe des bêtes de scène, les gens qui sont accros à ça, les gens qui adorent ça. En interview, tu sais, les artistes qui disent genre, moi j'ai besoin du public. Moi, la seule interaction, c'était genre, j'ai besoin vraiment de plus jamais faire ça de ma vie. C'était extrêmement désagréable dans toutes les zones de mon corps. Et donc là, je crois que au-delà de la blessure d'ego et tout, il y a vraiment un truc où je me dis genre, ah, en fait, je suis pas du tout faite pour ça. Genre, c'est horrible. C'est... Et puis, je veux pas le refaire. Vu que t'en as ouais, pas vécu quoi que ce soit de positif, tu peux pas entrevoir le genre. J'imagine que ça doit être cool quand ça marche, tu vois. Donc voilà, une plantade qui fait que je me dis genre, ah non, vraiment pas. Mais j'aurais dû, effectivement, j'aurais dû avoir la lucidité de me dire, mais c'est normal.
Mais t'avais personne autour de toi, peut-être, pour te le dire, non?
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que si t'es habitué à progresser, peut-être que cette plantade-là, tu sais très bien que c'est genre, ah ouais, ça me rappelle la première fois que j'ai fait les essais pour le club de natation et ça n'a pas marché. Mmh.
C'est Kian qui me disait qu'il avait appris la persévérance avec le violon, qui est vraiment le pire instrument.
Quel enfer. pauvre parents, pauvre famille, pauvre voisin.
Et puis, tu vois, lui, c'est un vrai truc de, ok, en fait, tu vas apprendre à galérer, à persévérer et à en chier, quoi, dès le plus jeune âge.
Ouais, bah, ça, c'est, voilà, je pense qu'effectivement, ça crée des gens mieux que moi. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le violon, si tu écoutes, Menuhin, et que toi, tu joues spontanément la première note que tu peux jouer sur un violon, qui est vraiment genre un chat qu'on égorge, enfin, c'est horrible. Effectivement, peut-être que ça te pose l'idée que, bon, bah, clairement, il faut aller de l'un à l'autre. On n'ira peut-être pas jusqu'à Menuhin, mais voilà. Il faut qu'on trouve le. Ouais. Bah, ouais. Non, mais je vais tabasser mes gosses, moi, c'est sûr. Ça va être. Je veux dire, psychologiquement, mais il faut. C'est pas du tout pour en faire des win-outs. C'est vraiment pour les protéger, quoi.
Oui, je pense, je suis assez d'accord.
C'est pour. Enfin, c'est le truc à l'envers, quoi. Si tu les protèges trop, c'est difficile après.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà. Et donc, moi, je fais cette plantade merveilleuse. Et je vais boire un café direct derrière avec des copines. Vraiment, je me rappelle leur avoir dit genre, ah ouais, non, mais c'était le pire truc de ma vie, je vais jamais refaire ça au monde. Et voilà. Après, je l'ai gardé dans un coin de ma tête en me disant, j'ai envie de le refaire au moins une fois, juste pour le truc de, j'aimerais que ça se passe une fois correctement. J'aimerais quitter l'arène en me disant, je suis remontée à cheval, tu vois. Mais au lieu de persévérer tout de suite, j'ai mis ça dans les tiroirs et ça a duré 5 ans avant de m'y remettre. Je sais pas ce qui se serait passé si j'étais remontée tout de suite, je sais pas. Mais en fait, ce qui fait que pendant les 5 ans où j'ai pas fait, je suis allée un peu à l'école des blagues de manière passive. C'est-à-dire.
Comment ça?
Bah, je me suis intéressée énormément au stand-up et je suis devenue une encyclopédie de ça. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui a été ma formation. La différence entre la première fois que je suis montée sur scène et la deuxième, c'est juste qu'il y a 5 ans qui sont écoulés où j'ai fait que ça, que en écouter, en voir et tout. Et en fait, je pense que la deuxième fois où je suis montée sur scène, j'avais intégré la rythmique, les mécanismes, etc., sans faire gaffe. Et que donc mon deuxième 5 minutes, en fait, il était déjà étonnamment très solide pour quelqu'un dont c'était un peu la première scène, parce que j'avais compris comment ça fonctionnait, tu vois, un peu. Je pense que c'est ce qui s'est passé.
Et la deuxième fois où tu montes, t'as pas ce truc de physique qui est putain, j'ai envie de mourir et.
Non bah, moins, ça se passe bien vite.
Ça se passe mieux.
Ouais, ça se passe bien tout de suite. Et en fait, les feedbacks, quand c'est positif, ça te porte de ouf. La première fois que tu prends des rires sur scène, c'est hallucinant. Dans l'autre sens, de oh, je savais pas qu'on pouvait ressentir ça. Enfin, c'est très. Et non, là, c'était après la première scène, c'était genre. J'ai fait une nuit d'insomnie tellement l'adrénaline était dingue et après je me suis dit ok, je vais faire ça tout le temps, c'est cool.
Je vais peut-être monter contre tout ton pays, mais il n'est pas difficile le public suisse, tu sais, quand tu disais que tu avais testé ta première fois à Montreux.
Moi, non, la première fois c'était à Paris, c'était un concours organisé par le Montreux.
Ah, ok, par le Montreux
Comédie. Non, moi je trouve pas.
Je suis allé à Montreux une année, et en fait, enfin 2 ans même, et en fait je trouvais que le public était. S'esclaffait pas beaucoup, quoi, tu vois.
Mais Montreux c'est des conditions particulières, hein. Donc c'est des places chères, c'est un public plutôt âgé, qui ne sait pas forcément ce qu'il vient voir, c'est-à-dire qu'il paye pour la fame du festival, mais c'est. Il paye pour des. Quelques têtes d'affiche, mais ils sont pas forcément genre clients des 8 personnes qui vont succéder et tout. Et surtout, en fait, Montreux, c'est dans les locaux du Montreux, du Montreux Jazz Festival. C'est une scène de musique, en fait. C'est extrêmement haut de plafond. C'est un son qui est pas du tout. Tu sais, la comédie, c'est Dimitri Martin qui dit ça. C'est la comédie, c'est. Il faut être dans un truc bas de plafond, très feutré, des salles qui sont pas bien en cas d'incendie. et c'est vrai.
Et c'est pas vraiment le cas de.
C'est pas du tout le cas de Montreux. Donc, je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont ce truc négatif. Aussi parce que dans les captations du Montreux, toi, c'est pas le cas parce que tu l'as vu en live, mais les captations qui sortent sur Internet.
Peu de son du public.
En fait, c'est ça. Il y a très peu de son du public. Donc, les gens sont persuadés qu'on se prend des fours alors qu'en fait, ça va très bien. Mais c'est pas une salle fun à sonoriser pour le public parce que je sais pas où il faudrait mettre les micros. Mais c'est vraiment pas fait pour capter. Enfin, pour qu'en fait, t'aies du son public, quoi. Ouais. C'est fait pour qu'il y ait une grosse résonance de ton son à toi. Et donc. Non, moi je.
Ok, d'accord.
Je crois pas qu'il soit plus froid. Je pense qu'il y a vraiment un truc.
Je te fais confiance. Hein,
chaque scène est différente. Je pense que les Parisiens sont assez difficiles, mine de rien.
Ah oui.
Je pense que. Après, il y a des tranches d'âge, il y a la question des plateaux, enfin, c'est-à-dire, est-ce que les gens savent ce qu'ils viennent voir ou non. Mais non, je crois pas qu'il soit plus difficile qu'un autre.
Je te crois, hein, je te crois. Vraiment, je n'irai pas contre toi. donc, tu décides de te relancer, et pouf, c'est parti, quoi.
Ouais, je garde un peu 5 ans sous le manteau, j'écris d'autres trucs, je change 1000 fois de métier. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, ok, là, je vais y aller, je m'inscris à une scène, et ça se passe très bien.
C'est quoi le déclic qui te dit, ok, je vais y aller?
Ça faisait longtemps que j'avais un peu sous le manteau et je crois que de découvrir l'existence de Thomas Wiesel qui allait devenir un ami mais que je connaissais pas encore à l'époque et je me disais oh on a un peu le même âge, on a un peu le même parcours, il est anglophile comme moi, il a des références un peu communes et tout, il a juste un an d'avance sur moi dans le truc mais ça fait que je commence à le voir un peu exister sur les réseaux sociaux localement et tout et je me dis ah bah si lui il fait moi je peux faire aussi et je me dis il y a des gens un peu comme moi et je sais pas exactement ce qui déclenche mais je crois que je finis par m'inscrire à une scène et après j'ai je sais pas quelques semaines pour écrire mon truc. Et voilà. Et c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool d'y aller en me disant je vais juste y aller une fois pour clore l'histoire. Et qu'en fait, ça m'ouvre un champ des possibles que j'avais pas du tout imaginé. Et après, ça s'enchaîne très vite.
Ouais.
C'est-à-dire que je fais cette scène. 2 mois après, ça me mène à un concours que je gagne qui me permet de faire un essai à la radio. Et en fait, entre la première, enfin, la deuxième scène qui est une scène ouverte et. 6 mois plus tard, j'en vis, quoi. Ça s'est enchaîné hyper cool. Parce que.
Il
y avait une
dire
place
aux gens
pour
que
les
ça
médias.
N'existe pas, normalement.
Non, alors, non. Je crois qu'il y avait de la place dans les médias suisses pour ça.
Ouais.
J'étais une meuf, j'avais un type d'écriture qui n'était pas encore hyper commun. Voilà, le stand-up, cette structure-là, il y avait de la demande, quoi. J'ai eu que des espèces de bonnes fées sur mon. Enfin, tu vois, Thomas Wiesel qui me présente son manager qui est Pierre Naftul, qui est un grand manager en Suisse, qui me présente Thomas Lécuyer qui gérait une salle qui s'appelait le Lido à l'époque à Lausanne, qui était incroyable. Enfin, tu vois, tout c'est vraiment l'alignement des planètes de ouf. Où, en fait, il y avait un marché, une demande, mais il n'y avait pas beaucoup de performeurs, donc ça allait très vite. Mais aussi avec beaucoup de gens bienveillants qui me voulaient de bien, tu vois. Je crois que c'est exactement ce que veut dire bienveillant, c'est qu'il me voulait du bien. Du coup, il ne faut pas que j'explique les adjectifs après derrière en faisant une phrase. Et ouais, c'était beaucoup de bol, quoi. C'est allé vite, c'était vraiment cool.
Je pense pas que ce soit du bol. Hein.
Non, mais c'était vraiment un terreau. Tu vois, j'aurais commencé ça à Paris. Je t'aurais dit, j'ai fait des scènes ouvertes pendant 2 ans. Après, enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, il y avait un
écosystème qui marchait bien, quoi.
Il y a vraiment une place.
Et puis des circonstances aussi, parce que comme tu dis, t'as une écriture qui est très particulière, je pense, à l'époque, et qui s'entend pas beaucoup, d'avoir des meufs qui parlent de façon un peu crue comme ça et.
Ouais.
Alors en appelant un chat, quoi.
Ouais.
C'est pas...
je pense que c'est ça. Je pense qu'on avait de la chance. À nouveau, c'est des dés qui sont pipés un peu. On avait de la chance avec des mecs comme Thomas et d'autres après d'avoir des bons niveaux d'anglais, qui étaient dus à la chance de l'enseignement, une curiosité personnelle et tout, qui fait qu'on a eu des références cool auxquelles tous les humoristes n'avaient pas accès tout de suite, qui fait qu'on s'est mis à écrire d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'était.
Il n'y a pas un bon niveau d'anglais généralement en Suisse, non ?
Ouais, on a un bon niveau de langue. Ouais, y a un bon niveau de langue de manière générale. Non, mais par exemple, ça nous a donné l'ascendant sur les Français pendant un moment. Pas sur la question de charisme, de bagou, d'être sur scène, mais sur l'exigence de comment on écrit. Il y avait beaucoup de gens qui avaient du succès qui n'écrivaient pas beaucoup de blagues, en fait, et qui n'écrivaient pas beaucoup tout court. Moi, j'écrivais vraiment beaucoup de blagues au début. Aujourd'hui, j'écris quasiment pas de blagues. C'est pas très blaguesque mon spectacle, tu vois. C'est genre, c'est marrant. Mais c'est pas très chevillé.
Qu'est-ce que t'appelles blague alors ?
Des vannes mécaniques, tu vois.
Ah oui, ok.
Que tu peux les lire, elles marchent, tu vois. Moi, il y a pas mal de trucs qui ont besoin d'être interprétés pour vivre un peu. Je me suis vachement éloignée de ce que je faisais au début, qui était vraiment moi qui étais paralysée sur scène et qui récitait des blagues. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus moi qui suis à l'aise sur scène et qui veux essayer de faire vous faire rigoler avec des intentions. Et j'aimerais bien revenir un peu au milieu du balancier, tu vois.
Ok.
Où il y a l'intention, mais un peu plus de blagues, parce que je trouvais pas assez de blagues. Ça veut pas dire que c'est pas drôle dans mon spectacle, mais.
Bah non, ton spectacle est très drôle.
Mais il y a moins de blagues que blagues que ce que je faisais au début.
Oui, tu veux dire dans le sens où tu ne vas pas forcément chercher la blague, c'est ça ? Tu racontes une histoire
marrant,
plutôt.
Ouais, je crois que c'est marrant dans des intentions, dans des petits moments de jeu, etc. Mais que le truc mécanique, tu vois, avec une chute à laquelle tu t'attends pas, ou un truc comme ça, il y a moins. Ça, je fais moins ça. Parce que j'écris plus beaucoup, en fait. J'écris beaucoup sur scène.
Hein?
J'improvise des petits bouts.
Ah oui.
En fait, j'ai des idées. Je sais pas, disons, j'arrive avec 1 minute 30 sur un sujet. Et puis, peut-être au bout de 8 mois, il y aura 3 minutes sur ce sujet. Parce que j'ai rajouté phrase par phrase des trucs qui venaient. Et puis, tu vois, ça grossit. Mais c'est pas très écrit, en fait. Mais c'est agréable de bosser comme ça parce qu'en fait, ça laisse vachement de place à ne pas se lasser. En fait, si t'as des blagues qui marchent que parce qu'elles sont écrites, tu te reposes vachement là-dessus. Si t'es obligé de vendre ton truc et aussi toi de vouloir le renouveler pour pas t'emmerder parce que tu l'as dit 300 fois, ça le fait évoluer, c'est intéressant.
Oui, je vois ce que tu veux. Oui, c'est de garder,
c'est
du,
plus lâche,
de garder du plaisir. Quoi.
Ouais, c'est un canevas de base. Enfin, tu vois, la vie d'humoriste, quand tu as la chance d'être, d'avoir une résidence, de faire ton spectacle 2-3 fois par semaine, machin, faut pas se lasser, quoi. Et moi, je trouve qu'une des solutions à ça, bah, c'est soit tu fais de blanche, tu les joues un an, soit en fait tu les bouges tout le temps au fur et à mesure. C'est très, moi je fais vraiment pour le coup du spectacle vivant, je crois, de plus en plus, parce que de 6 mois en 6 mois les gens le disent, quoi, ça bouge pas mal en fait.
Comment t'as fait pour trouver de plus en plus du plaisir sur scène là où tu démarres en disant c'était horrible? Et
bah c'était horrible parce que en fait non, je m'accrochais au texte, quoi. Je prenais pas beaucoup de plaisir, j'étais pas là, quoi. Et en fait, après, je suis un peu allée aux États-Unis en me disant, justement, si j'ai moins de mots à ma disponibilité, j'ai un bon niveau d'anglais, tu vois, mais c'est quand même flippant, je vais devoir être là. Parce que je pourrais pas me cacher derrière des blagues aussi bien ciselées, tu vois, que...
Donc t'as été jouer assez rapidement ton spectacle en anglais?
Alors, j'ai juste fait des scènes, tu vois.
Okay,
je suis allée aux États-Unis et ça m'a détendue. Et après, je suis revenue en France et j'étais un peu plus détendue, j'étais un peu plus là. Et après, je crois qu'il n'y a pas de secret, faut le faire. Et on te dit, au bout de 7 ans, tu commences à trouver ta voix, VOX. En stand-up, moi ça va faire 7 ans, c'est vrai que je commence à trouver ma voix, et je pense pour faire un vraiment très très bon spectacle, il faudra 10, dans mon prochain spectacle sera vraiment, j'en serai méga fière. Je suis très contente de celui-là, tu vois, mais je pense que c'est un très long processus, le stand-up.
Tu fais de la méditation ?
Un peu, mais pas assez, mais pourquoi ?
Non, parce que tu parlais d'être présente sur scène.
Ouais.
C'est un truc qu'on dit pas dans la vraie vie, sauf
non, mais c'est
pour
ouf,
les gens qui ont fait un peu de méditation.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, c'est une vraie gageure d'être là, de pas rentrer en mode automatique quand tu le connais bien, tu vois, de pas être là en train de faire ta liste de courses pendant que tu le fais parce que t'as tes effets, etc. Non, je te jure.
Louis
C.K. il parlait d'un truc un temps de, parfois il se forçait,
est-ce
des blagues qu'il avait fait, on a le droit de le
citer. Ok, ça
va. C'est Louis C.K. il parlait d'un truc à l'époque de, je me force parfois à changer les intonations. Un truc qui fonctionne, que j'ai déjà fait 300 fois, je me force à changer l'intonation pour voir ce que ça donne. Déjà pour moi, me surprendre, pour surprendre les gens et pour aussi y prendre du plaisir. C'est très, moi, en tout cas, c'est vachement ça. Je rajouter de l'adrénaline et... Mais peut-être parce que je suis pas assez disciplinée. Il y a des gens qui te disent... Moi, Farid m'avait dit ça. S'en fous que toi, tu l'aies fait 1000 fois. Eux, c'est la première fois. Fais-le comme si c'était la première fois. Je trouve ça génial. Un mec comme le comte de Bouderbala, tu vois, son spectacle d'avant, il a dû le jouer un milliard de fois. Je pense qu'il était aussi bien au début qu'à la fin. Mais je crois que j'ai pas cette discipline. Peut-être c'est un truc de sportif, je sais pas, mais moi j'ai pas cette... j'ai besoin de m'amuser et donc j'ai besoin, je crois, de lancer un peu des grains de sable dans la mécanique, tu vois, de temps en temps.
Dans les yeux des gens.
Voilà, c'est ça. Non, mais à moi-même, hein, tu vois, me surprendre un peu, de me faire trébucher.
J'aimerais qu'on parle de ta psychanalyse.
Oui. Alors, j'ai pas fait, en fait. J'ai essayé la psychanalyse, ça n'a pas fonctionné. Et donc après, je suis allée voir un psychiatre qui a fait de la thérapie...
Oui,
comportementalo-cognitive, qui est un truc très concret, c'est qu'il y a des... On est vraiment dans une demande de résultats dans ces thérapies-là, c'est pas exploratoire, quoi. C'est pas de la recherche fondamentale, c'est vraiment genre... J'aimerais bien arrêter de pleurer dans ma douche, est-ce qu'on peut faire ça? Et c'était formidable.
Quand est-ce que tu pleurais dans ta douche? Donc c'était entre tes...
Je sais pas, je pense que, la puberté, ça m'a un peu fucked up.
Ok.
Je pense qu'en fait, des circonstances...
Tu poses trop de questions. Ça avait l'air de te poser trop de questions, notamment par rapport à l'histoire de ton corps, etc.
Enfin, ouais, je pense que l'orientation... Enfin, le sens, déjà, juste la question de genre, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Pourquoi? Pour gagner de l'argent? Pourquoi? Pour avoir des loisirs? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est utile ou pas? Comment être une femme? Est-ce qu'on veut séduire ou pas? Qui suis-je? Machin, truc, tout ça. Ça va t'arriver dans les dents, hein, tu te réjouis?
Je sais.
Et puis, après, je pense qu'il y a vraiment une question de problème de déséquilibre chimique, tu vois, qu'il y a vraiment de la dépression qui est, je pense, partiellement déterminée par des facteurs, tu vois, génétiques et comment ton cerveau est foutu, quoi. Et que du coup, il faut prendre soin de toi de manière très boring, en fait. Il faut juste être équilibré, mais c'est pas... Si on te dit, c'est quoi les remèdes? Ben, en fait, faut être très régulier dans ton sommeil et comment tu t'alimentes. C'est bête, hein, mais c'est... Tu vois, il n'y a pas des remèdes éclatants, quoi. C'est des petites choses mises bout à bout. Mais donc... Moi, je pense que j'ai commencé à avoir des épisodes à l'adolescence et que j'étais vraiment pas bien entre 20 et 25, peut-être. Et qu'aller voir un psychiatre, ça m'a vraiment sorti... Mais j'ai eu une errance là-dedans avant que ça marche, quoi. J'ai essayé plusieurs thérapeutes et tout à coup, j'arrêtais pendant 2 ans parce que j'y croyais pas. Et le jour où j'ai trouvé le bon, c'est allé très vite. Mais ça a été long de vouloir... Et puis même d'admettre qu'il fallait se faire soigner, tu vois. Je me disais, mais non, les gens sont tous des cons. C'est moi qui ai raison, vous ne voyez pas que le monde est pourri. Enfin, tu vois, c'est vrai. Vous ne voyez pas que tout est dark. Voilà. Et ça... ça... Puis psychiatre fort efficace, que j'ai vu genre 4 fois par semaine au début, c'était assez intense.
Waouh.
Ouais, c'était bien. Et j'y retourne de temps en temps. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand je vois les signes un peu avant quoi, je comprends que c'est une question de santé mentale. C'est pas genre que... C'est pas la réalité qui va vraiment pas. C'est pas genre, oh, le monde est horrible et pourri. Non, non, tu commences à avoir cette vista-là. Donc tu vas commencer à changer de mode de vie, donc tu vas te replier sur toi, donc ça va être encore plus sombre, etc. etc. Mais j'ai compris maintenant que c'est des épisodes. Tu vois, c'est pas... quand t'as un rhume, tu commences pas à te dire genre, oui, l'air est irrespirable. Non, tu as le nez bouché, c'est différent. Enfin,
j'allais faire la métaphore avec le dentiste, en fait. C'est-à-dire que quand tu sens que tu commences à avoir mal à une dent, tu...
Tu dis pas que c'est le monde autour, tu dis pas que c'est la pression atmosphérique qui est en train de pousser sur ta dent. C'est toi
juste,
qui dis genre...
Ça va partir en carie, après ça va partir en rage de dent, et donc tu finis par te dire, il faut aller
se faire soigner. Ouais, exactement. Et voilà, pour les gens qui y ont accès, c'est bien sympa.
Va falloir qu'on rende l'antenne. On a parlé de plein de choses.
À nous les studios. À vous, Cognac.
On a parlé de plein de choses. C'était un peu décousu, mais franchement, j'ai kiffé.
Pardon, je suis désolée, on est rentré dedans, non, un peu moi. Dans le vif du. J'étais en digestion, j'étais en association libre comme ça.
En association.
Je sais pas. En free flow.
C'était très très bien. J'espère cool. que ça aura plu aux gens. Donc, on peut te retrouver donc au Théâtre de l'Œuvre.
Oh là là, c'est tellement bien. Beau ce théâtre. Il est joli ce théâtre.
Le théâtre est magnifique.
Ah, il est fort sympathique. Moi, je joue un spectacle drôle au Théâtre de l'Œuvre.
Ça s'appelle vraiment un spectacle drôle.
Ça s'appelle vraiment un spectacle drôle parce que j'aime bien les trucs un peu laconiques comme ça. C'est les mardis et mercredis à 21h jusqu'à fin décembre.
Tu joues après Fanny Ardant.
Je joue après Fanny Ardant, dingue, on s'est croisés, maintenant elle est plus là, mais c'était merveilleux. Je joue avec le même théâtre que André Manoukian, que Roman Frécinet, que le Cirque des Illusionnistes, que des gens super.
C'est des gens qu'on adore.
Et donc, ouais, c'est 2 fois par semaine. Peut-être ça va continuer à Paris l'année prochaine, je sais pas encore, 2020. Et après, il y aura de la tournée, ça c'est sûr, ça va être super. Et ouais, c'est une joie, venez voir, c'est chiant, mais franchement, il est beau ce théâtre. On passe une bonne soirée. J'ai des super bonnes premières parties en plus.
Ton spectacle est très cool.
Ah bah cool.
Vraiment, qu'est-ce que j'ai ri.
Ah ouais.
Ouais ouais, vraiment.
Ah ouais, chouette.
Tu m'as eu à plusieurs reprises.
Ah
ah. Elle parle de moi.
Ah. C'est vrai. À la base, ce spectacle devait s'appeler Fab Florent. Une vie, une œuvre. Et après, on s'est dit, on va avoir des problèmes de copyright. Donc on a dit un spectacle drôle.
Et puis on peut t'entendre aussi à la radio.
Absolument, les lundis sur la bande originale, c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois que j'ai une poussée de fièvre. Ça s'appelle la bande originale, c'est sur France Inter. Et sinon, vous pourrez me retrouver bientôt dans toutes les salles quand j'aurai écrit un bon film.
Est-ce que tu es en train d'écrire un film?
J'essaie d'écrire plein de trucs, ouais. On verra si ça se fait. Ah, okay. Ou sur HBO quand je.
Ah, ça serait bien.
Un spin-off de Game of Thrones qui s'appellera The Knitting. Et c'est tous les personnages qui crochette une grande tapisserie tous ensemble. C'est beaucoup moins fort en action, mais il y a plein de très belles conversations.
Il y aurait des chouettes dialogues.
Ouais, c'est ça, exactement. The Knitting. Game of Knitting. Je cherche le mot aiguille en anglais, mais je l'ai pas là.
Needle ?
Ouais, Game
c'est
of Needles. Voilà,
c'est la même chose que. Ok. Merci Marina, en tout cas c'était trop bien.
Je viens de me renverser du thé dessus. Merci à toi, Fab Florent.
Salut.
Je suis désolée, j'ai la fièvre. Au revoir, bisous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.